J'aime pas lire. J'aime pas lire, lire. J'aime pas lire, lire.
Pas lire.
J'aime pas lire, lire. J'aime pas lire, lire. J'aime pas lire, lire. J'aime pas lire.
Bonsoir, bienvenue sur les ondes de Radio Canu, c'est votre programme J'aime pas lire sur 102.2 FM à Lyon ou sur radiocanu.org en minuscule et tout attaché. Ce soir, j'ai un grand plaisir, un grand bonheur. Je reçois non seulement quelqu'un qui va nous lire avec une voix merveilleuse, une voix que je connais depuis des années, car je n'ai pas peur de vous le dire, nous sommes amis. Nous avons déjà collaboré sur de la littérature.
La grande littérature.
La grande littérature. Vous venez d'entendre la voix de Ben. Bienvenue à elle.
Merci.
Merci d'être venue.
Ah non, merci à toi. Je suis bien contente d'être ici.
Alors, ça remonte à... On s'est rencontrés il y a bien longtemps, mais l'aventure littéraire que j'évoquais s'est passée dans les pentes de la Croix-Rousse à Lyon. Il s'agissait du café Lecture Les Voraces,
ouais.
Un lieu génial.
Ouais, ça remonte à pratiquement 20 ans.
Pratiquement 20 ans. Tu m'avais embarqué là-bas et je t'en remercierai jamais assez.
Oh bah, j'ai bien fait, hein.
T'as bien fait.
On a félicité vivement de t'avoir embarqué là-bas.
Et tu y avais, pour mémoire, on reviendra dans quelques mois sur l'aventure du Café Lecture. On va vous faire un programme spécial. Memories, la mémoire. Ben y animait une rencontre de lecture qui s'appelait Les Lectures en Catimini. Tu m'avais alors invité sur quelques sessions à te rejoindre.
Tout à fait.
Et c'était génial de t'entendre lire.
C'était bien de t'entendre lire aussi.
Ah bon,
ça tombe bien, on va faire
d'être
que
là.
Des compliments.
On a choisi un thème pour ce soir. Le thème organes et sens, tant ils sont impliqués dans la vie des humains et de tous les mammifères, tant ils sont impliqués dans notre constitution même, que l'on soit en train de lire ou que l'on soit en train de faire autre chose. Et ce qu'il y a de formidable dans la lecture, c'est l'éveil de sens qui devrait être au repos, puisqu'ils ne sont pas stimulés par ce qui se passe véritablement dans le livre. C'est la magie de la lecture. Puis il nous fallait bien un thème. Allez, hop, organes et sens. Très joli. Je vais commencer par lire un texte des années 60-70 américain d'un auteur qui s'appelle Robert Silverberg. Un texte qui s'appelle L'oreille interne. Oui, cela peut surprendre. Ce n'est pas véritablement un sens ou un organe. Mais le début du chapitre 5 que j'ai sélectionné nous parle du cerveau sans lequel rien n'est possible. Aldous Huxley pensait que l'évolution a construit notre cerveau de manière à lui faire jouer le rôle d'un filtre face à l'afflux de tout ce qui nous est inutile dans notre lutte pour le pain quotidien. Vision, expériences mystiques, phénomènes psy tels que des messages télépathiques en provenance d'autres cerveaux. Toutes sortes de choses dans ce genre envahiraient perpétuellement notre esprit s'il n'y avait l'action de ce que Huxley a nommé dans un petit livre appelé « Le ciel et l'enfer », la soupape de réduction cérébrale. Si l'évolution ne nous en avait dotés, nous serions sans cesse distraits par des visions d'une incroyable beauté, par des intuitions spirituelles d'une grandeur écrasante, et par des contacts brûlants, sans dissimulation possible, d'esprit à esprit avec nos semblables. Heureusement que l'action de la soupape nous protège, presque tous, de ces choses-là, et nous rend libres de vaquer à nos existences quotidiennes, consistant à acheter bon marché pour revendre le plus cher possible. Bien sûr, il semble que certains d'entre nous naissent de temps à autre avec une soupape défectueuse. Je veux parler d'artistes tels que Bosch ou le Gréco, dont les yeux ne voyaient pas le monde comme il apparaît au vôtre et au mien. Je veux parler des philosophes visionnaires, des extatiques et des chercheurs de nirvana. Je veux parler aussi des pauvres couillons de paumés capables de lire dans la pensée des autres, des mutants, des accidents génétiques. Huxley croyait cependant que l'efficacité de la soupape de réduction cérébrale pouvait être diminuée par l'utilisation de différents moyens artificiels, afin de donner ainsi au commun des mortels accès aux matériaux extrasensoriels habituellement réservés à une poignée d'élus. Les drogues psychédéliques, pensait-il, avaient cette propriété. La mescaline, selon lui, contrarie la production d'enzymes qui régularisent la fonction cérébrale et, ce faisant, diminue l'efficacité du cerveau en tant qu'instrument orientant l'esprit sur les problèmes de la vie à la surface de notre planète. Ce qui semble permettre l'accès à la conscience claire d'un certain nombre de catégories d'événements mentaux, normalement exclues parce qu'elles ne possèdent aucune valeur de survie, des intrusions similaires de matériaux biologiquement inutiles, mais esthétiquement et parfois spirituellement précieux, peuvent se produire comme conséquence de la maladie ou de la fatigue. Ils peuvent également être provoqués par le jeûne ou par une période de confinement dans un endroit total, totalement obscur et silencieux. En ce qui le concerne, David Selig ne peut pas dire que les drogues psychédéliques lui aient tellement réussi. Il n'en a fait qu'une seule fois l'expérience et elle n'a pas été heureuse. C'était pendant l'été 1968, quand il vivait avec Tony. Si Huxley accordait beaucoup d'importance aux substances psychédéliques, il ne les considérait pas comme la seule voie d'accès aux expériences visionnaires. Le jeûne et la mortification physique y conduisaient aussi. Il parlait de mystiques qui utilisaient régulièrement sur eux-mêmes le martial de cuir à nœuds ou même le knout à pointe d'acier. Ces autoflagellations équivalaient à une opération chirurgicale avancée, sans anesthésie, et leur effet sur la chimie corporelle du pénitent était considérable. De grandes quantités d'histamine et d'adrénaline étaient libérées par l'action du fouet proprement dite. Et lorsque les blessures infligées commençaient à s'infecter, la chose était à peu près inévitable avant l'apparition du savon, diverses substances toxiques provenant de la décomposition des protéines se mêlaient au sang. Mais l'histamine produit un choc, et ce choc affecte l'esprit non moins profondément que le corps. En outre, de grandes quantités d'adrénaline peuvent engendrer des hallucinations, et l'on sait que certains des produits de sa décomposition provoquent des symptômes rappelant ceux de la schizophrénie. Quant aux toxines libérées par les plaies, elles bouleversent la production d'enzymes régularisant l'activité du cerveau et réduisant son efficacité en tant qu'instrument permettant de trouver sa voie dans un monde où survivent les créatures biologiquement les plus aptes. C'est peut-être la raison pour laquelle le curé d'Ars répétait, à l'époque où il était libre de se flageller sans merci, que Dieu ne pouvait rien lui refuser. En d'autres termes, là où le remords, l'aversion de soi et la peur de l'enfer libèrent l'adrénaline, là où l'autochirurgie libère l'histamine en même temps que l'adrénaline et où les plaies infectées déversent dans le flux sanguin les protéines en décomposition, l'efficacité de la soupape de réduction cérébrale est diminuée et des aspects inhabituels de l'esprit élargis, comprenant des phénomènes psy, des visions et, s'il est suffisamment préparé sur les plans éthique et philosophique, des expériences mystiques envahissent la conscience de l'ascète. Le remords, l'aversion de soi et la peur de l'enfer. Le jeûne et la prière. Le fouet et les chaînes. Les plaies infectées, à chacun son trip, je suppose. libre à vous d'essayer. Et voici la fin de cette première lecture, L'oreille interne, Robert Silverberg, sur le cerveau. On va écouter un morceau de ton choix.
Oui.
Un morceau qui t'est cher.
Oui, tout à fait.
Qui va bien avec le cerveau.
Quand on en avait discuté, je t'avais parlé de choc esthétique.
Ouais.
Oh, c'est un bien grand mot, mais ça veut vraiment dire ce que j'ai éprouvé la première fois que je l'ai entendu. Sur scène, hein, pour le coup, c'était en concert, et c'était un concert de The X.
The X, State of Shock. Let's go. We'll be right back. C'était comme un cerveau en état de choc. Après une première lecture, un premier morceau, on va entendre la belle voix de Ben évoquer l'odorat. Et tout d'abord, dans un extrait du Mari de la coiffeuse, un film de Patrice Lecomte.
Avec Jean Rochefort.
Sorti en 1990. Let's go.
Il y avait dans notre ville un salon situé dans un quartier calme, un salon dans lequel on ne coiffait que les hommes et qui était tenu par une Alsacienne très belle, la belle Madame Schaeffer. Et il n'y avait presque jamais personne dans son salon. Il n'était pas utile de prendre rendez-vous, elle n'avait pas de mari. Elle avait sans doute beaucoup d'amants. Moi, j'aimais aller chez elle. En poussant la porte, une odeur épatante envahissait mes narines. Un mélange de lotion, de laque, d'eau de rose, de shampoing. Une odeur d'ivresse. Mais l'odeur la plus extraordinaire était l'odeur de Madame Schaeffer elle-même. Cette femme était rousse. Elle avait une odeur corporelle assez forte qui peut-être incommodait certains clients, mais qui moi m'enivrait. C'était comme si son corps tout entier sentait l'amour. J'adorais ça. Le moment du shampoing était déjà un délice. Madame Schaeffer penchée sur moi, sa poitrine frôlant presque mon visage, et cette odeur dont je m'imprégnais en prenant de longues inspirations silencieuses. Le soir, dans mon lit, je la respirais encore, avec cette envie invraisemblable de la prendre dans mes bras. Un jour de juin 1947, avant notre départ en vacances, il se passa quelque chose dont je devais me souvenir toute ma vie. Il faisait très chaud, elle sentait encore meilleure. Et pour la suite, il faut voir le film.
Merci Ben. Quel film, on le conseille vivement. Tu nous lis ensuite un petit texte sur l'écriture du parfum.
Oui, donc qui est issu du Dictionnaire amoureux du parfum d'Elisabeth de Feydeau. Il se trouve que c'est une historienne experte en parfum. Et donc elle cherche, au travers de ce dictionnaire, à explorer un peu toutes les facettes du parfum et en particulier donc son côté romanesque. Ça tombe bien.
Nickel. Let's go.
Donc ce chapitre est intitulé « Écrire un parfum ». Comme l'écrivain sur sa page blanche ou le musicien sur sa partition, le parfumeur aligne les premiers mots, les premières notes, imagine un nom de code, pose les noms des matières premières. Il place ensuite les petits flacons de ses travaux en cours bien ordonnés ou dans un joyeux désordre sur son bureau. Il ne relit pas ses pages. Il sent ses essais, puis corrige sur le papier. Comme le disait Edmond Rudnitska, l'importance n'est pas de sentir juste, mais de déduire juste. Le parfumeur entend la musique intérieure de chaque accord. Il faut que le résultat corresponde à son idée première avec le même perfectionnisme que d'autres formes de création. À la différence de l'écrivain ou du musicien, le parfumeur n'est pas dans la succession, mais dans l'impression globale. Le parfum se lit en une fois, s'écoute en un accord, même s'il se décompose au fil de l'évaporation, ce qui constitue sa formule. C'est pour cela que le parfumeur Jean-Claude Héléna refuse la décomposition d'un parfum en tête, cœur, fond, qui pourrait constituer des chapitres de son œuvre. Mathilde Laurent écrit ses formules sur un cahier, à l'encre rouge. Elle dit qu'une formule est très simple. On a une ligne avec un ingrédient, on note le nom de la matière et à côté, dans la petite case, on inscrit un chiffre, exactement comme on fait un gâteau. Pour Frédéric Malle, donc éditeur et créateur de parfums, l'écriture d'un parfum me renvoie aussi au stylo de mon enfance. Ces Waterman demandés dans les listes de fournitures scolaires de la rentrée, dont les cartouches contenaient une encre bleue avec une odeur très particulière et assez addictive. Ce parfum humide de champignons que réchauffait une note de cuir se répandait dans nos cartables quand l'encre avait coulé, restait sur nos doigts parce que le stylo avait fui, imprégnait la feuille de copie parce qu'elle avait bavé. Cette odeur étourdissante, presque anesthésiante, était due à la molécule phénol, un conservateur antiseptique également utilisé en médecine. Soupçonné d'être toxique à haute dose, il fut remplacé. On ne conserve aujourd'hui que la nostalgie de son odeur.
Il s'agit souvent de cela avec les odeurs, la nostalgie, le souvenir, l'évocation, mais également l'envie de, quand on met du parfum par exemple, de se sentir bien, de s'envelopper de toutes ces belles sensations. Merci Ben pour la lecture. On écoute un morceau de Motor Psycho qui s'appelle Wearing Your Smell. Let's go. De retour en studio sur Radio Canu 102.2 FM, la plus rebelle des radios. Ce soir, dans J'aime pas lire, on reçoit Ben, qui lit avec moi ce soir. Razonne à la technique, salut. Et j'ai le grand plaisir, deuxième grand plaisir de la soirée, c'est de vous annoncer que le 1er décembre, on a fixé un deuxième rendez-vous avec Ben, qui viendra tous les deux mois. C'est ça, on avait dit tous les deux mois. Hein.
Bah ouais.
Tous les deux mois.
On va essayer.
On va essayer de se faire une séance ensemble avec du répondant. et des belles lectures et une belle sélection musicale. Après le cerveau, l'odorat, on enchaîne sur le toucher avec un texte qui, sans jeu de mots, m'a beaucoup touchée. Rien que le titre, j'en bégaye tellement il est beau. Lointain souvenir de la peau. Très belle traduction d'un roman de Russell Banks qui est sorti en 2012. Encore un auteur américain. J'ai pas cherché à faire. Je m'en excuse. Vous m'avez bien compris. C'est parti. L'iguane du kid, lui, est attaché à un parpaing par une chaîne un peu plus longue. Il s'appelle Iggy, nom que le kid trouve à présent assez nul, mais il n'avait que 10 ans quand sa mère lui a offert l'iguane. Et sans raison précise, c'est le chanteur Iggy Pop qui lui est venu à l'esprit en premier. Puis lui, l'iguane et son nom ont fini par ne faire qu'un. De la même manière que le kid et son nom ont fini par ne faire qu'un. Et après, il était trop tard pour changer. Quand l'iguane était bébé, il ne mesurait que 20 ou 25 cm. Il était très vif, d'un vert éclatant et tout mignon, décoratif presque. 12 ans plus tard, il a la taille et le poids d'un alligator adulte, 1m80 de la tête au bout de la queue et 12 kilos. Et il n'est plus mignon du tout, absolument rien de décoratif. Son corps épais et musclé est recouvert d'écailles gris foncé. Une crête dorsale hérissée part de sa tête et parcourt tout son dos ainsi que sa longue queue. C'est une bête tout droit venue de l'ère des dinosaures, mais pour le kid, son aspect est aussi normal que celui de sa mère. Un fanon pend de sa mâchoire osseuse en repli souple, et sur ses pattes griffues, il y a des membranes de peau qui se durcissent et se soulèvent comme si elles saluaient le kid quand celui-ci s'approche. Il a les tympans à la surface de la tête, juste au-dessus des yeux et derrière eux. Au sommet du crâne se trouve un troisième œil primitif, une lentille grise, semblable à une hostie, qui surveille les prédateurs venant de dessus, pour la plupart, de gros oiseaux. Selon certains experts, ce troisième œil suit le soleil et sert de système d'orientation. D'emblée, le kid s'était lancé dans une étude systématique des iguanes sur le web. Il avait appris tout ce qu'il pouvait du corps de cet animal, de ses besoins et de ses désirs, de ses habitudes, de ses peurs, de ses forces et de ses faiblesses. Il n'avait jamais eu de notes au-dessus de C- en classe, mais si l'on avait étudié les iguanes, il aurait eu un A+. Iggy était la seule créature, à part lui-même, dont il avait été un jour obligé de s'occuper. Et il avait décidé de s'y employer de la même façon qu'il aurait souhaité qu'on s'occupe de lui. Comme si l'iguane avait été un enfant et qu'il lui était le père. Voilà, lointain souvenir de la peau. On me dit dans l'oreillette que le son prévu ne fonctionne pas pour suivre cette lecture, mais ce n'est pas grave du tout. On va enchaîner sur une autre lecture. Pas de problème.
Sinon, je peux chanter la chanson. Hein.
On peut chanter la chanson.
Non. C'est une blague.
Désolé, on avait prévu un joli son sur le thème du toucher. C'est pas grave, on va le remplacer. On va le remplacer par une lecture sur la vue.
On continue donc notre excursion des sens. Et là, donc, je vais lire deux petits extraits d'une œuvre qui s'appelle Aveugle de Sophie Calle. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Sophie Calle, en fait, c'est une artiste contemporaine, conceptuelle. Et elle mélange souvent dans ses œuvres photographie, vidéo, performance. Et c'est basé essentiellement sur les témoignages et sur l'intime. Et donc, en particulier, dans cet ouvrage, elle interroge des aveugles sur leur perception de la beauté. Et donc, c'est une réflexion sur l'absence, la disparition, donc d'un sens en l'occurrence. Le premier témoignage est celui de Claudine, qui répond donc à la question « Qu'est-ce que la beauté pour vous ?» La beauté, c'est quelque chose de chaud et doux, ou une certaine harmonie. J'ai perdu la vue à l'âge de 6 ans, mais je percevais encore les couleurs. Et puis j'ai perdu les couleurs. Ça a été très dur. Quand mes enfants sont nés, j'ai fait comme toutes les mamans. J'ai trouvé qu'ils étaient les plus beaux du monde. Je les ai touchés, sentis, écoutés. Maintenant qu'ils ont grandi, je fais encore comme toutes les mamans. Je les touche moins. Je sais que Gaëlle est belle. Elle a presque 18 ans. C'est une grande jeune fille, brune, mince et coquette. Damien, lui, a 14 ans. Il est passionné de dessin depuis qu'il est tout petit. C'est une grande frustration de ne pas voir ce qu'il dessine. Alors, il me le raconte. Enfant, il me faisait même toucher ses dessins. Peut-être qu'il deviendra un grand dessinateur, dont je serai très fière, sans jamais avoir vu ses œuvres. Le deuxième témoignage est celui de Clément, 7 ans et demi. Toujours à la question, qu'est-ce que la beauté pour vous ? Je ne sais pas trop ce qui est beau, à part la beauté. La beauté, je suis sûre que c'est beau. Ma maman aussi, elle est belle, parce que c'est ma maman, et que je sens qu'elle est douce et blonde. Et les montagnes, tout le monde sait que c'est beau. Pour le reste, c'est assez difficile à dire. Par exemple, les couleurs. Je crois que c'est important pour la beauté. Dans la musique, tout est beau, sauf le rap, parce que souvent, il y a trop de gros mots. J'adore toutes les sortes de musique et j'aime beaucoup les voix aussi. Par exemple, ma maîtresse a une belle voix, mais je ne sais pas si elle est jolie. Mon chien Rookie aussi. Il est roux et blanc, doux, très gentil. Je crois que ça veut dire qu'il est beau. Tous les ans, on va en vacances en Bretagne. La mer, c'est très beau, à cause de l'odeur, du bruit des vagues et aussi des coquillages qu'on trouve quand on creuse dans le sable. Ce qui est important dans la beauté, c'est l'odeur et la douceur. Les chats, par exemple, j'aime bien, sauf quand ils griffent. Moi, je n'ai jamais vu les couleurs, mais je les connais quand même, parce que mon papa et ma maman m'expliquent plein de choses qu'ils voient. Comme ça, je les vois dans ma tête et je peux imaginer leur beauté.
Imaginez leur beauté, c'est merveilleux. Clément, c'est ça ?
Oui, c'est
le petit Clément,
7 ans et demi.
Clément, 7 ans et demi, quel beau témoignage, merci. On a un morceau de rap sans vilain mot pour toi, Clément. Pas trop. Les propos sont un peu abrupts, mais il n'y a pas trop de gros mots. Allez, demi-portion, j'ai vu. Et c'est parti pour demi-portion, j'ai vu.
Demi-portion, écoute ça, écoute ça.
Dans la foulée, j'en ai vu jouer au jeu du foulard. J'ai vu mes chevilles enflées, juste après leur fichu fouleur. Des bêtes crevées parce qu'une pute voulait leur fourrure. Des hommes levaient le poing, acclamant ce putain de fureur. J'ai vu mes rêves fuir et tous ces plaisirs éphémères me rendent flemmard. Je me suis même vu agir sous les nerfs, insulter le maire parce que nos murs sont toujours pleins de merde. De même, j'ai vu des frères se bousiller à l'herbe. J'ai vu l'air pollué, des plages noires pleines de pétrole. Un pote à 18 piges devenir père et dans le pétrin. J'ai vu le ciel béton et le béton me frapper fort. J'ai cru toucher Sarko en caillassant les forces de l'ordre. J'ai vu la nuit devenir jour, le jour devenir nuit. Et l'ennui siffler la mort parce que la mort appelle la vie. J'ai vu ta fille tailler des pipes à l'heure où tu pensais qu'elle dort. Les strappeurs quitter son groupe parce qu'il voulait le disque d'or. J'ai vu des hommes promettre, des hommes traite. J'ai vu des hommes buter speed bouffer un monde. Moi je te le dis, c'est le mec que je bute. J'ai vu l'amour, le coup de foudre avant un coup de feu. Durant 400 ans, j'ai vu le blanc mettre des coups de feu. J'ai vu cette vie crade et cette jeune qui la dépendance à bite. Qui pour un gramme se met à quatre pattes et peut te sucer la bite. J'ai vu l'enfer du haut d'une tour d'en bas, j'ai vu mes torts. Voyant la corde, je me suis vu pendu dans le décor. J'ai vu ces racistes me faire taire parce qu'ils avaient le flashball. Et sur TF1 et Arnold remplacer Dragon Ball. J'ai vu mon époque mourir ou dépasser par une autre. Des profs juger des gens sur un putain de carnet de notes. J'ai vu ma haine prendre le contrôle, la raison me contraint. Beaucoup d'embrouilles mais rarement d'un contre un. J'ai vu leur contrat et mon peur à s'épanouir sans l'argent c'est bien. Mais l'objectif c'est faire du bon son. Je me suis vu bosser, écrire des textes à la chaîne. Ressentir le rap comme si c'était ma propre chair. J'ai vu le hip-hop partir en couille à cause de leur MC. Des sons pétés quand des pédés se prennent pour des messies. J'ai vu ce coucher de soleil, je m'y étais cru. Mais c'est qu'une carte postale et vu des centaines de milliers couchés sur un lit d'hôpital. De quoi prendre un pétard et sauter la cervelle. Quand des gamines en arrivent à s'ouvrir les veines. J'ai vu les petits de la fesse partir en couille parce qu'il y a pas de vacances. Quand on est en dingue sur les bancs de la galère, y a pas de place vacante alors on campe dans le hall. Emmerde le voisinage, tristesse sur nos visages. Brouillard de béton pour seul paysage. J'ai vu cette fille en dingue, celui que j'appelais mon meilleur pote. Peut-être que sa chatte était meilleure que notre époque. Je sais pas, dans le fond y a trop de questions et ça me rembarche. On est plus que trois, dis-moi où est passée ma bande d'en bas. J'ai vu des trucs et pour les dire il me faut plus d'un couplet, plus d'un son, plus d'un album pour trouver la paix. ailleurs, j'ai vu ce qui me choque et même des choses qui m'échappent. Utopie, frère, je garde les chartes d'Arafat.
Ouais, par ici que ça se passe. Ouvre les yeux, regarde un peu. Si on voyage en troisième classe et qu'on n'a pas voulu faire la queue, heureux, je sais pas trop. Je vis ma vie, puis je constate sur feuille et face au micro. C'est devenu du full contact. Et s'exprimer, y'a rien de mieux. Merci à la ZIC nous réunir. Merci si tu soutiens, si tu écris pour prévenir. Un respect à ce monde, à toutes les familles d'immigrés. On a trop sali ma couleur, qu'elle s'est transformée en tigré. Intégré, ça fait un bail, ne me pose plus cette question. Et tes vieux clichés de racaille à la poubelle, mon fiston. À croire qu'on se nourrit dans la jungle, entassé dans des cabanes. Et comme Broca, on finit par manier le micro comme une sarbacane. Tais-toi, non ça va pas, je reviens booster la culture. Quand je te dirai tout va bien, c'est qu'un jour il y a ma structure. J'ai vu tellement de choses sales, et comme l'omère à la rupture. J'ai vu certains appuyer pause et ignorer le bouton lecture. Sachant que la vie est un combat, mais toujours en kimono. Et des couplets tellement francs qu'on m'a demandé d'aller mollo. J'ai vu qu'il fallait du boulot, en période bien agitée. J'ai vu Chazal s'énerver quand on était pas dans son JT. J'ai vu des trucs trop graves, j'ai vu le manque de suivi. J'ai vu un vieux parler mal et trop de chacun en civil. Est-ce que dans chaque mot tu devines? Essaye, imagine. J'ai vu des petits s'exploser avec un esprit trop fragile. On sait qui sont nos ennemis, mais pas trop sur des alliés. Comme beaucoup veulent qu'on se boite, juste nos cages d'escalier. J'perds mon tempérament, ouais man, j'vis comme l'animal. Et puis l'envie en finale, mardi l'envie la primale. Ici j'ai trop pété les plans, on m'a trop coupé les ponts. J'ai vu que la France aimait l'handicap, mais seulement au téléthon. J'ai vu, y admettons, que ce soit nous qui les condamnent. Je serai à la place du président, en train d'arroser Marie-Jeanne.
Marie-Jeanne. Ouais, ouais.
C'était Demi-Portion, la chanson J'ai vu. Si d'aventure un petit Clément, qui a été un jour interviewé par Sophie Calle, entend ce morceau, on te le dédie, le rap c'est pas si mal. Et maintenant, on passe à un sens qui n'est pas des moindres. En tout cas, moi il m'importe beaucoup dans la vie, c'est le goût. Et je vais vous lire un texte que j'ai écrit moi-même, qui s'appelle L'Outre-Mangeuse, un titre inspiré d'une bande dessinée de Tonino Benacquista, un auteur de polar, et pas que, je crois, dessiné par Jacques Ferrandez, et c'était sorti chez Casterman en 98, et ça s'appelait L'Outre-Mangeur. Voilà, L'Outre-Mangeuse par Psychonaut, c'est parti. Je rêvais que je mangeais. J'avais toujours, toujours faim. Plus que manger, j'aimais goûter. Je défaillais pour une saveur inconnue, même dégueulasse. Une révolution. Du goût. Dans ma bouche, j'avais toujours, toujours faim. Un mirage de déglutition totale. Chaque mouvement de ma gorge consumait une émotion. Je ne refusais jamais à manger. Mais j'avais toujours aussi faim. Dans ma bouche, tout se mélangeait, jusqu'aux mots pénétrés de salive. Un champ de bataille sans limite de satiété. S'y jouaient des conflits sauvages, incontrôlables, parfois jusqu'au sang d'une joue mordue. Ma bouche sale, barbouillée, collante, mes dents claquaient sur elles-mêmes, avides. Mes mâchoires étaient épuisées et peinaient à la tâche parfois. Je ne parlais pas, j'étais occupé à manger. Sans doute idiote, pensait-on, ou même, plutôt, déjà, aliéné. Mon paradis gustatif allait bientôt sombrer dans le souvenir. Je poursuivais un esthétisme du goût, certes, mais je dévorais jours et nuits. On me fit couper la langue. Peut-être étais-je possédé. Jamais devint mon maître mot, l'acide sur ma plaie immense. Jamais plus de pain abondamment beurré. Jamais de fruits si odorants venus des lointains. Je n'avais jamais parlé. Rapidement, j'eus l'âge de savoir que jamais je n'embêterais. Je recommence. Rapidement, j'eus l'âge de savoir que jamais je n'embrasserais une âme désirée. Le baiser excessivement chaste du bout des lèvres devrait me contenter. La bise furtive sur une pommette devenue saillante par manque de nourriture. Une colère inextinguible me rongeait, comme j'avais pu auparavant renier des os. Je les laissais parfaitement nettoyés, blanchis, dépourvus du moindre relief de chair. Des vengeances se tramaient et nourrissaient de sucre le ferment de mon ire. Des abysses de lâcreté aux abîmes d'insanité où me menait ma trajectoire, j'inventais un organe suppléant afin de saisir quelque plaisir à cette existence obscure. Cet appendice était une lame que ma main trouvait à sa forme et ma rage à son goût. Je tranchais rapidement dans mes lambeaux d'humanité. J'ôtais aussi certaines vies, celles qui avaient présidé à ma déchéance. Ma béance était si repoussante que nul ne pouvait l'oublier quand il l'avait vue. J'étais entré dans une dimension de frayeur et de puissance folle. Je voulais engloutir le monde dans une noirceur équivalente au vide dans ma bouche. J'éructais des menaces, invectivais, ululais, modulais, crachais, avec une économie totale de mots articulés. Comme j'avais aimé que ma langue soit complice de mon palais, de mon nez, de ma gorge. Par sens du drame, je me faisais retirer par un boucher de métier mon inutile dentition. Je me faisais un cure-dent du néant. Le goût âpre du sang me rappelait l'intérieur de mes joues meurtries par trop de mastication. Je rêvais que je mangeais. Faim. On écoute Philippe Catherine, Poulet, numéro 728-120.
Poulet numéro 728120. Poulet de Vendée. Élevé en plein air 89 jours et 90 nuits. Parmi 380 autres poulets, alimenté avec 75% de céréales. Décembre 1998, à l'abattoir de Saint-Fulgent. Électrocuté, vidé, déplumé, lavé, conditionné, labellisé le poulet. Le 11 décembre 1998, je l'ai acheté 52,55 francs chez le boucher chauve rue de la Bastille. Je l'ai mangé, chaud le midi, froid le soir, avec une bouteille de vin rouge. Je l'ai adoré, le poulet. Mon poulet, numéro 728120. Je t'aime, je pense à toi.
Philippe Catherine, une histoire de poulet. Il est formidable, Philippe Catherine, j'adore ses textes. C'est Ben qui nous a suggéré ce son et on l'en remercie.
De rien.
Tu vas nous lire deux textes sur Louis, deux textes de ton choix.
Tout à fait.
On t'écoute.
Le premier, c'est L'oreille absolue, donc un roman de Mathieu Boutin de 2013. Petit extrait. Elle affectionnait particulièrement les silences et les symboles par lesquels on les identifiait dans la partition. Un peu comme la ponctuation d'un texte, mais en beaucoup plus riche. Le soupir, le demi-soupir, la pause, la demi-pause, le quart de soupir, le tasset même, qui indique carrément de se taire, Jasmine enseigna à ses partenaires musiciens la beauté du silence. Elle envisagea le silence comme un bloc de marbre que le musicien devait sculpter afin qu'émerge l'essence de la musique. Tout le reste n'était que bruit.
Je suis d'accord.
Et je continue avec les mots qu'on ne me dit pas de Véronique Poulain. Donc un livre de 2014 et il s'agit en fait d'une autobiographie puisque Véronique Poulain est la fille entendante de deux parents sourds. Il n'y a pas de conjugaison en langue des signes. Il n'y a pas de temps en langue des signes. Il y a un avant, un après, un pendant, mais pas de passé composé, de futur, de présent. La notion de temps est donnée par le corps. Au futur, il bascule vers l'avant. Au passé, il part en arrière. Ce que les sourds appellent la ligne du temps. Un autre extrait. Aujourd'hui, mamie est morte. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire aussi, j'ai 11 ans. Rentrant de l'école, dernière ligne droite avant d'arriver à la maison. Je vois tout là-bas, au bout de la rue, que mon père est à la fenêtre. Il me fait de grands gestes. « Mamie, morte, mamie, morte !» Je fonds en larmes. Il faudrait interdire aux sourds d'annoncer les mauvaises nouvelles par la fenêtre. On a le cœur en miettes encore plus longtemps. Voilà.
C'est beau. On est bientôt à la fin de l'émission. Avant de vous laisser avec le morceau, tu as encore un texte ?
Non, je comprends.
Ah, d'accord. Avant de conclure l'émission, on a des annonces à vous faire. Ensuite, on écoutera le morceau qui a été miraculeusement retrouvé par Razon. Et la première annonce, c'est que nos super invités des semaines passées, Schlass, Charlie Dirty et Daddy Schwartz, seront en concert à Lyon en première partie de Ludwig von 88, ce vendredi à La Rayonne en première partie de Ludwig. Donc on espère vous y voir. Et Ben a une annonce également pour un spectacle musical, pardon.
Non, pour un concert, tout simplement.
Pour un concert.
Un concert. On va dire un thé dansant rock'n'roll. Je ne sais pas comment l'identifier mieux que ça, puisque en fait, ça se passe ce dimanche 19 octobre, sur le plateau de la Croix-Rousse, au Mouton Masqué. C'est à 16h. Et si vous avez aimé le morceau de ZX qu'on vous a passé en tout début d'émission, eh ben, vous pourrez sans doute retrouver ce morceau avec les musiciens et chanteurs, chanteuses de grand talent que sont les Just Angels. Voilà, donc c'est dimanche à 16h au Mouton Masqué.
On leur souhaite également un bon concert. On se retrouve évidemment la semaine prochaine et nous avons avec nous un auteur de la région, Mohamed Brahiki. Nous sommes ravis de recevoir. Il a écrit des chouettes romans et on en parlera avec lui plus en avant. On écoute le morceau retrouvé, Néné Chérie, I've Got You Under My Skin, un morceau qui ne fait pas que parler, enfin qui n'est pas évocateur que par son titre, Je t'ai sous la peau, mais qui était un morceau qui, de façon courageuse et audacieuse, parlait du sida et de l'isolement des malades séropositifs ou atteints du sida. On écoute ça, on dit au revoir à Ben, on la retrouve le 1er décembre.
Et ben, avec grand plaisir.
C'était chouette. On dit au revoir à Razon. À la semaine prochaine. To make sure they putting out a helping hand. Nana Cherry know the story, so it must be told about a group of people left in the cold, caught by a plague. Slowly they fade from an immune deficiency you see called AIDS. No knowledge of the fact kept in the dark scolds my soul and it hurts my heart. The young and elderly just running blind, hurt so bad it denied their own kind. Papa turn around and say that ain't mine, and it just made it worse for life on the line. And it's a shame to see a little child mature, growing up knowing that there ain't no cure. I've got you
she ever knew.